Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de René Jean-Pierre. Délire de la sublimation. Production, mise en scène, René Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Ou alors on attend, comme ça. Il lui dit, c'est pas réjouissant. Elle lui dit, que veux-tu? Nous sommes damnés.
Elle se lève pour aller s'allonger sur le lit. Il se lève pour se mettre à côté d'elle.
Elle lui dit, nous sommes le frère et la sœur criminels et amants. Notre vie est à jamais damnée. Il ne nous reste plus qu'à mourir pour ne pas subir la sentence des hommes. Il lui demande, tu crois? Elle lui répond, oui. Il lui dit, comment devons-nous mourir? Il y a plusieurs façons de mourir. Le poison, le poignard. Celle de se laisser glisser dans la vie sans résistance. Moi, je sais que je ne regretterai rien. Je m'ennuie tellement dans cette vie. Et puis, tout ce que nous faisons est criminel. Nous sommes des damnés, perdus. Il vaut mieux qu'on en finisse. Il lui demande « Comment ?» Elle lui dit « J'ai encore du poison de Mathilde. » Elle se soulève et ouvre le tiroir de la table de nuit. En 30 petits flacons de verre, on voit un liquide marron foncé. Elle débouchonne. On a frappé à la porte. Ça l'a fait sursauter et lâche le flacon qui tombe à terre et se brise. Qui est-ce?
Madame, c'est pour vous annoncer que le dîner est servi. Bien, j'arrive.
Elle soupire.
Jean-André lui demande, qu'allons-nous faire? Elle lui dit, le destin choisi, il faut nous laisser glisser.
Ils se lèvent tous deux et sortent de la chambre.
Il est allé au commissariat déposé sans déposition et signé. On lui a dit qu'il n'y avait rien de nouveau et que l'on cherchait encore. Cet interrogatoire a troublé Charles-André et se dit qu'il doit faire attention. Mais il n'a aucun remords. Le remords vient de l'éducation,
c'est la conscience dramatique du geste que l'on a fait. Malheureusement, cette conscience peut être relevée d'une façon froide, sans sentiment. Ceci est dû par l'insociabilité, la non-reconnaissance d'appartenir à un groupe, se sentir seul et unique et n'avoir qu'un seul but, soi. Les personnes qui trônent la liberté de l'individu en lui enlevant les chaînes, comme ils disent, de la famille, de la nation et en plus de la religion, font des générations de jeunes froids, sans remords de leurs gestes, qui ont l'impression d'appartenir à personne. Charles André est à peu près comme ça, mais pas totalement. C'est dû à son éducation et à sa jeunesse très renfermée et à ce qu'il est des désirs hors normes, comme l'opium par exemple. Mais, comme il est artiste, il peut rectifier tout ça, car la création le force à voir le monde pour le recréer. Le temps passe et pas de nouvelles dans les recherches sur Denise. Le dossier est en veilleuse en attendant quelque chose de nouveau. Le corps de Denise n'est pas retrouvé. Il reste bien amarré à sa cheminée. Dans quelque temps, on retrouvera peut-être un squelette avec des bouts de chair habillé de lambeaux qui semblent être ceux d'une robe ou d'une chemise de nuit. Charles André a commencé à travailler pour son père. Son bureau où il reçoit les réclamations des locataires se trouve en plein centre de Lyon et c'est un pas de porte dans un vieil immeuble. Il est là pour recevoir les réclamations et le loyer. Ce n'est pas drôle, car le Français n'aime pas dépenser pour se loger et trouve toujours que c'est au propriétaire de faire les réparations. Donc, travail fastidieux ou dans une minuscule pièce triste et pas très propre, il note sur un grand cahier les doléances des locataires et leur loyer. Quelquefois, lorsque le locataire a du retard pour payer, il est obligé de se déplacer. Il n'aime pas ça, car on le prend pour un employé. On le reçoit à la cuisine ou dans le hall. Quelquefois, l'on pleure, l'on crie, on rouspète, on ne veut pas payer son loyer tant que les réparations ne seront pas faites. Et aussi, on ne lui ouvre pas. Riche ou pauvre, le locataire se comporte aussi mal avec lui. Les journées de travail sont longues, pénibles, où on vous rabâche toujours la même chose. Vous voyez toujours le même genre de gens qui font grise mine. Cela mine, surtout qu'il faut de temps en temps aller régler des différends entre locataires. Et certains différends sont vieux de plus de 10 ans. Et ce sont pour la plupart d'une bêtise pas possible. Donc à la fin de la journée de travail qui a été assez longue, car bien sûr les personnes à aller voir sont libres qu'après des heures de travail. Ils vous disent « Je travaille, moi ». J'attendrai avant de leur dire « Et moi donc ?» Mais non, pour eux, cet employé de bon à rien, qui ne fait rien parce qu'il n'est pas capable de résoudre le problème dans les minutes qui suivent, un petit jeune homme feignant qui ne fait rien, et en plus, toutes ces phrases d'explication qu'il faut faire pour leur dire que ce n'est pas au propriétaire à faire les réparations, mais au locataire. On le regarde d'un drôle d'œil et on lui dit « Mais je paye un loyer, moi. Alors, à quoi ça sert? On est juste bon à payer, le propriétaire ne fait rien. » Il a envie de leur dire « Ça sert à vous loger. » Donc, après une journée qui a été rude, où l'on a entendu des tas de choses, Charles-André a eu l'impression d'avoir passé sa journée à régler des histoires de concierge. Il se sent là, abaissé. Il a l'impression d'avoir souillé son cerveau de choses basses et se dit que s'il continue ce travail là-dedans, il va devenir complètement gaga comme les gens qu'il reçoivent. Ce qui l'agace, c'est que son cerveau est tellement fatigué de ses bêtises qu'il ne peut plus faire autre chose. Le soir, dans sa chambre, il a toutes les peines du monde à se concentrer à son nouveau roman et même à écrire. Après quelques minutes, son front se serre, il a sommeil, il a des difficultés à écrire, mais une lettre avant l'autre. Il les forme difficilement, a des troubles de la mémoire. Il a des peines, toutes les peines du monde, à trouver certains mots. Il faut que je choisisse écrire ou travailler. Avec mon père, malheureusement, si je lâche, ça va risquer de faire des scènes. Je vais tâcher d'écrire le matin en me réveillant. J'irai au travail plus tard. C'est ce qu'il fait. Il se force à écrire au moins 10 pages par jour pour se réhabituer à écrire. Petit à petit, la chose revient. Il reprend plaisir à écrire. Mais son travail prend de plus en plus, vient de plus en plus en second. Et souvent, il pense dans la journée à ce qu'il a écrit ou va écrire. Il ne peut pas oublier une pensée, il la marque sur un papier. Ce qui fait que petit à petit, son esprit prend plus de temps à son roman. Malgré lui, il s'applique moins à son travail et écoute les déclarations en ayant l'air sérieux, mais à l'intérieur, son cerveau vagabonde. Le roman sur Saint-Vincent se vend bien. Son éminence le fait connaître car il est fier de la préface du livre. Et l'autre roman avance mieux. Apolline a besoin d'être aimée et aimerait que Jules l'aime. Mais Jules semble préoccupé par autre chose. Elle va malgré tout 1 heure chez lui dans sa chambre, car c'est là où il se trouve le plus souvent. Vous me direz, que pense sa mère de ses rapports entre frère et sœur? Trouve-t-elle normal que la sœur s'enferme dans la chambre de son frère pendant des heures? Eh bien, elle se dit, il vaut mieux que les enfants s'entendent bien. Quant à savoir ce qu'ils font, je ne viendrai jamais à l'idée qu'ils aient des rapports trop intimes. Ce genre de choses n'existe pas. Apolline est allongée sur le lit de Jules et lui est à son bureau. Il écrit. Elle lui demande « Jules, tu m'aimes ?»« Oui, bien sûr. » Elle lui demande « Mais tu m'aimes vraiment comme avant ?» Il soupire, se tourne vers elle et lui dit « J'ai changé. Je ne pourrai jamais faire ce que nous avons fait. Pourquoi ?» Parce que c'était une période exceptionnelle et puis il n'est pas bien pour nous deux que nous recommencions. Elle a la gorge qui se serre, envie de pleurer. Elle lui dit, tu as décidé tout ça seul? Moi je ne compte pas. Tu peux pas savoir comme j'ai mal. Je t'aime toujours, il lui répond. Ce n'est pas vrai. La preuve, tu es parti avec Charles-André. Elle lui dit avec une voix désespérée, tu ne m'aimes plus parce que tu crois que j'ai aimé Charles-André? En réalité, tu es jaloux. Tu n'as pas à l'être. Je suis partie avec lui parce que tu n'avais pas voulu partir, que je devais m'en aller de cette maison. Je t'aime, j'aime bien Charles-André, mais à côté de toi, il lui dit, je ne suis pas jaloux de mon frère. J'espère seulement que vous êtes comportés comme frères et sœurs, pour qu'il y ait au moins une personne normale ici. Elle lui dit, pourquoi? Tu crois que nous ne sommes pas normales? n'est pas normal qu'un frère et une sœur. Il voit qu'elle a envie de pleurer.
Il se lève pour aller s'allonger près d'elle.
Elle lui dit, pardonne-moi, c'est surtout à moi que je pensais. Moi, je suis vraiment pas normal. Elle lui demande, pourquoi dis-tu ça? Parce que j'ai des désirs, si tu savais. Je ne les comprends pas moi-même. Elle lui dit, ce sont des rêves. Il lui dit, des rêves sûrement, mais que j'aimerais réels. Je ne vois pas. Qu'est-ce qui peut te faire honte? Tu as envie de crime? De te battre? Non, ce n'est pas ça. Si c'était ça, ce serait naturel. Mais là, non. Je ne suis pas comme les autres. Ce que j'aime, tu l'aimes aussi. Elle sourit et lui dit, tu n'es pas immoral. Pour ça, parce que, car si moi, j'aime, je le suis. Oui, mais pour toi, c'est normal. Tandis que pour moi, il n'y a que je ne peux plus aimer. Ça m'est impossible. Elle hausse les épaules et lui dit, c'est idiot ce que tu dis. Il lui dit, je ne peux pas t'aimer comme tu voudrais. Aucune femme d'ailleurs. Ni aucune femme. Elle lui dit, parce que tu n'as encore trouvé personne qui t'aime. Pourtant moi, c'est parce que je suis ta sœur que tu ne veux pas. Non, c'est pas ça, c'est moi. Je suis incapable de t'aimer. Elle se penche et lui dit, viens, en le tirant vers elle. Il se dégage.
Il se lève et lui dit, ce serait idiot. Laisse-moi. Elle se lève tristement et sort de la pièce en se disant qu'elle ne retournera plus jamais.
Cette scène avec son frère l'a profondément tourmentée. Cela la rend morose et triste, voit la vie en noir, n'arrive plus à dormir, à faire quoi que ce soit. Et un jour, son corps se souvient d'un plaisir qui lui rendait la vie supportable. Oui, l'opium. Elle lutte pour ne pas retourner dans ce piège, car elle sait que c'est un piège. Malheureusement, sa mélancolie la pousse à en vouloir. Elle ne dort plus, mange plus, passe des journées à errer dans les rues pour passer le temps. Elle a des douleurs un peu partout, se sent lasse. Et un après-midi, dans un café populaire où elle est entrée pour prendre un café, la pièce est sordide et vide, et à part elle et le cafetier, un gros chauve, l'air hagard. Après avoir bu son café, elle reste là, hésitante, car elle sait qu'il en vend, mais elle a peur de recommencer. Parce que son corps sait lui aussi qu'elle peut en avoir, il la fait plus souffrir, n'en pouvant plus. Elle fait signe au cafetier. Vous voulez encore un café? Non. Elle hésite et lui dit, j'aimerais quelque chose de plus fort à fumer. Ah, je vois. Vous avez de l'argent? Elle ouvre son sac et lui manque des billets. Bien, suivez-moi. C'est derrière.
Elle se lève et suit le cafetier. Il l'amène derrière une petite pièce. Se trouve derrière le comptoir.
petite pièce exiguë, sans fenêtre, avec à terre des matelas et des tissus de toutes les couleurs, une petite table basse et tout l'appareillage pour fumer. L'odeur de la pièce l'enivre. Il lui dit « Donnez l'argent ». Elle lui demande « Combien ça fait ?»«
Ça fait
la pipe ». Elle le lui donne.
« Bien, allongez-vous, je vais vous préparer la chose. »
Il lui prépare la pipe. Et quitte la pièce. La première bouffée, elle a l'impression qu'elle va s'évanouir, tellement c'est chaud, doux. Le nez est irrité, les yeux brillent et pleurent. Elle voit un peu trouble à cause de la fumée. Puis, elle se sent petit à petit sortir. Son corps se laisse aller. Elle est bien. Bien. Elle voit tout tourner. Mais ce n'est pas désagréable. Elle plane. Plane. Puis ne sait plus. Ce sont des couleurs, des sons, un plaisir de bien-être. Elle oublie qui elle est, ce qu'elle fait, où elle est. La lumière, les couleurs vives qui tournent, tournent, tournent. Ce sont sourds. Qui n'est pas de la musique, cette sensation de planer, puis c'est le trou noir, elle se réveille. Allongée, épuisée, elle a froid. Une drôle d'odeur dans la bouche. Les membres raides qui font mal. Elle a des difficultés à voir. C'est sombre, c'est sale. Elle a froid. Un peu envie de vomir.
Elle se relève difficilement. Et sort de la pièce.
Il y a du monde, des gens qui parlent, le bruit lui fait mal à la tête. Le cafetier la regarde. L'accompagne sa sortie et lui dit avant qu'elle ne parte, revenez quand vous voudrez. Elle ne dit rien. La lumière du jour lui fait mal aux yeux. Ça lui est insupportable. Elle voit tout en noir et blanc. Bien sûr, après avoir vu toutes ces couleurs aussi vives, elle marche en essayant de reprendre ses esprits. Elle a fort envie de vomir. sais pas combien de temps a duré la chose. Il se dit qu'il ne faut plus qu'elle recommence. Le réveil est pire que tout. Arrivée chez elle, elle monte à sa chambre. Sa mère la croise dans les escaliers et lui dit « Tu es pâle, tu ne vas pas ?» Elle lui dit « Je suis indisposée, je vais me coucher. » Et elle va à sa chambre.
Une fois arrivée à sa chambre, elle va se coucher.
Elle s'est jurée de ne plus en reprendre. Mais malheureusement, le corps, lui, en redemande. Après quelques jours, elle devient irritable, a mal de partout. S'enferme dans sa chambre. Ses membres tremblent, ses lèvres aussi. Elle a envie d'hurler, de pleurer. Elle a des fourmillements sur tout le corps, des douleurs horribles, ne supporte pas le bruit, n'a goût à rien. Sauf ce besoin qui devient une hantise, retourner fumer. Et un après-midi, n'en pouvant plus, tremblante, elle retourne fumer. Dès qu'elle a pris la décision, elle se sent déjà mieux. Elle est entrée dans le café, le cafetier la reconnaît. Il va vers elle et lui dit « Vous tombez bien, la pièce est vide. Vous avez l'argent ?» Elle fait oui de la tête et lui dit « Ce sera de plus. Nous avons eu des ennuis avec la douane. Il a fallu payer une amende. » Elle lui donne l'argent tremblante. « Venez. »
Elle le suit. Une fois dans la pièce, qu'elle ne regarde pas, elle enlève son manteau et va s'allonger.
La deuxième fois, elle s'est sentie plus détendue, pas de douleur, de besoin de vomir. Mais malheureusement, cette détente dure peu et elle sait qu'elle doit y retourner au moins une fois par semaine. Maintenant, ses yeux sont constamment brillants, sa peau blanche, ses lèvres fines, ses mouvements lorsqu'elle n'est pas en manque sont lents. Elle aime la solitude, le calme, la pénombre, mange peu, boit assez, fume en plus quelques cigarettes, lit un peu, surtout des verres, des tests très courts, car au bout d'un moment, elle ne suit plus. Elle sait qu'elle n'est pas normale, que ça doit se voir. Elle a peur qu'on le sache, surtout Chalandré. Alors elle se cache dans de sa famille. Reste le plus souvent dans sa chambre, protestant et fatigué. Jules pense que c'est à cause de lui. Charles-André est trop pris entre son roman et son travail, il ne fait pas attention à sa sœur. Lorsqu'elle se trouve avec ses parents, elle fait en sorte à être à contre-jour. Les jours passent. Malheureusement, sa vie, comme l'on dit, ou sa manie, coûte cher. Elle voit diminuer son argent propre. Et un jour, elle était bien obligée d'aller en demander à sa mère. Elle va la voir au salon, agacée par cette demande. Parce qu'elle va être obligée de faire des humiliations que cela va provoquer.
Entrez.
Sa mère est assise à prendre son thé.
« Ah, ma fille, viens donc prendre le thé avec moi. »
Elle s'approche et s'assoit en face de sa mère.
La mère sonne.
« Alors, comment vas-tu ? » ?»«
Mère, je suis venue vous demander. » On a frappé à la porte.
« Entrez. »
C'est la bonne.
Apportez une tasse de plus pour ma fille, s'il vous plaît.
Mère, je suis venu vous demander si vous pouviez me faire une avance d'argent. On a frappé à la porte.
Entrez.
C'est la bonne qui apporte le verre et un plateau de brioche qu'elle dépose sur la table.
Et quitte la pièce.
La mère sert le thé.
Sans sucre, ni lait, comme les personnes qui l'aiment vraiment.
Alors ma fille, tu veux de l'argent?
Parce que j'ai rien à me mettre. Elle boit une gorgée. La mère lui dit,
« Pourtant, avec tout ce que je te donne, je trouve que tu dépenses beaucoup. »
Apolline se sent agacée. Elle lui dit, « Peut-être bien, mais j'ai besoin d'argent. »
« Si tu crois que l'argent se trouve comme ça, qu'il suffit d'en demander. »
« Je sais, mère, qu'il faut travailler pour en avoir. Mais puisque vous ne voulez pas que je travaille parce que je dois être une fille bien de bonne famille, » je ne peux pas faire autrement que de demander de l'argent à mes parents. C'est vous qui avez voulu que je sois à votre charge. Si vous ne me donnez pas de l'argent, je ne m'habillerai pas, j'irai toute nue. » La mère lui dit,
« Non, ma fille, si l'on ne veut pas que tu travailles, c'est par convenance. Il n'y a que les femmes du peuple qui travaillent. Elles ont une excuse. Leur mari ne gagne pas assez. Mais des femmes de notre milieu, ce serait immoral de travailler, car l'on prendrait la place à celles qui ont réellement besoin de travailler. Nos maris gagnent suffisamment pour nous faire vivre. Pour nous occuper, nous avons nos œuvres de charité, nos réunions, soirées, la poésie, je ne sais pas, moi. »
Apolline lui dit, pour l'ennuyer, « Mais ça aussi, c'est du travail, mère. »
« Oui, mais il est bénévole, charitable, gratuit. »
Elle lui dit, « Si ce que font les bénévoles était fait par des salariés, cela supprimerait sûrement beaucoup de misère en créant des emplois. » Sa mère lui dit,
« Tu as sans doute raison, mais la charité chrétienne ne se fait pas pour gagner sa vie, mais pour gagner le paradis. »
La mère reprend du thé. Apolline soupire et lui dit,
« Oui, si tu y tiens, mais je trouve c'est que tu dépenses beaucoup. Il faudrait que... je te montre à mon médecin. Tu as une mine détestable et je te trouve très irritée. »
Ce n'est rien, mère, c'est le temps. Et puis je fais du souci pour mon avenir. »
« Ne t'en fais pas, nous trouverons à te marier. Bien, il te faut combien?
Je ne sais pas, depuis ce que vous pourrez.
Bien, je vais te donner 2 mois de pension.
Merci, mère.
Avec ces 2 mois de pension, elle est tranquille pour quelques semaines. Mais après, malheureusement, sa mère lui demande ce qu'elle a acheté.
Montre-moi, je veux voir si tu as du goût, Apolline lui dit.
J'ai pas encore eu le temps de faire mes achats.
Comment cela? Tu étais si pressé que je te donne l'argent.
Pas le temps? Tu n'as rien à faire. Je ne te comprends plus.
Apolline se sent obligée d'acheter quelques robes. Elle est obligée d'aller les prendre chez des couturières, ce qui fait baisser affreusement sa bourse. Une fois que les robes sont faites, elle les montre à sa mère pour avoir la paix. Malheureusement, elle sait qu'elle ne peut plus demander d'argent à ses parents. Quant à ses frères, ils n'en ont pas. Alors, elle décide de vendre quelques bijoux personnels, des livres rares, de vieilles robes. Et un jour, malheureusement, cela ne suffit pas. Ce soir-là, elle se jure d'arrêter l'opium. Mais 2 jours plus tard, les troubles reviennent. Les sons d'or en or de plus en plus violents. Pour se calmer, elle fume des cigarettes, boit, respire de l'éther. Cela la calme un peu, mais ça ne suffit pas. Elle n'ose pas sortir de sa chambre. Elle a peur qu'on la voie dans cet état. Sa mère, inquiète, va frapper à sa porte.
Apolline, je peux entrer ?
Vite, Apolline se couche et se cache sous les couvertures.
Entrez, mère. Mon Dieu, comme c'est sombre ici, tu ne trouves pas? Je vais aérer. Ça sent une drôle d'odeur.
La mère lui dit d'une voix faible.
Du lit.
Qu'est-ce que tu as? Tu es malade?
Non, un peu fatiguée.
Tu n'as pas de la fièvre?
Elle se penche vers sa fille.
Tu as les yeux brillants. Tu ferais bien de faire venir le médecin.
Non, ça va. Pas la peine, mère. Je suis juste un peu fatiguée. Ça ira bientôt mieux.
La mère ou ses épaules sceptiques.
Tu as l'air vraiment mal en point. Et tu veux pas manger quelque chose?
Non.
Un bouillon?
Non plus. Je veux dormir.
Bien, je te laisse.
Et elle la quitte. Elle retourne à son salon. Pour dire à son mari.
Elle n'est pas bien du tout. Et je ne sais pas si je pourrais pas faire venir le médecin. Elle vit dans l'obscurité. Je serais plus tranquille si le médecin venait.
Son mari lui dit. Je vais lui dire de venir.
Charles-André a compris de quoi souffrait sa sœur. Il leur dit. Attendons un peu. Elle sera sûrement remise.
Sa mère lui dit,
si tu voyais dans quel état elle est, non, il faut que le médecin vienne.
Charles-André n'ose pas dire à sa sœur que le médecin va venir la voir.
Et en fin de journée, le médecin, un homme petit, maigre dans les 60 ans, cheveux gris, visage osseux, lunettes, costume gris, mallette, marron, accompagné de la mère, va frapper à la porte de la chambre.
La mère frappe.
Elle est entrée. La pièce est encore dans la pénombre. Elle est encore au lit. La mère lui dit, « Ma chérie, je suis venue avec le docteur Poirier. »« Mais mère, je ne suis pas malade. » Le docteur lui dit, « mais non, mon enfant, juste un peu patraque. Le docteur Poirier va vous remettre d'aplomb. Vous n'avez pas à avoir peur de moi. Je vous ai déjà vu depuis toujours. C'est moi qui vous ai mis au monde. Calmez-vous et laissez-vous examiner. » Il eut l'air et dit à la mère, « Il faut aérer, ça sent l'éther. » La mère va ouvrir la fenêtre. La lumière du jour fait mal aux yeux d'Apolline et à la peur qu'on voit son visage. Elle le cache sous les draps. Le docteur s'approche du lit, se penche et lui dit,
« Alors, mon petit chéri, vous n'avez pas à vous cacher de moi, mon trésor. »
Il se lève le drap, la voit.
« Je vois. »
Il touche le front, regarde les pupilles, lui palpe le pouls. « Ouvrez la bouche.
Je vois. Ça sent l'éther. »
Il soulève le drap.
« Bien maigre et nerveux, tout ça. » « Je vois, je vois. »
La mère va vers lui et lui demande, « Qu'a-t-elle, docteur ?»«
Rien de grave. J'aimerais, madame, c'est que vous nous laissiez seuls avec votre fille. »«
Bien, docteur. »
Et la mère sort de la chambre.
Une fois que la mère est sortie, le docteur lui dit,
« Maintenant que nous sommes que tous les deux, nous pouvons parler franchement.
Je sais ce que tu as. Tu prends l'opium depuis longtemps ? » Elle ne répond pas. Elle a honte. Il lui dit,
ne crains rien, ça restera entre nous.
Alors ? Quelques années ? Deux ? Trois ? Le docteur lui dit,
en ce moment, tu en manques.
Oui,
ma pauvre fille. Tu as de la chance d'être tombé sur moi. Je comprends les faiblesses humaines. Et c'est de la drogue des artistes, n'est-ce pas? J'aime mieux que tu prennes de l'opium plutôt que de l'éther ou je ne sais trop quelle saleté. L'opium, c'est au moins naturel et ça sert pour certains traitements. Comment fais-tu pour avoir de l'argent pour t'en procurer?
J'en demande à ma mère et je vends des babioles.
Mais ça ne te suffit plus. Moi, je peux t'en procurer, mais il faudra être bien sage avec moi. Je vais aller t'en chercher pour te remettre d'aplomb. Et lorsque tu en auras besoin, tu viendras me voir dans mon cabinet.
Merci, docteur. Le docteur se penche, lui soulève le haut de sa chemise de nuit, lui dit,
tu es tellement mignonne qu'on ne peut rien te refuser, mais ne dis rien de notre arrangement à tes parents.
Comment pourrais-je vous payer?
Nous verrons bien. Allez, à tout de suite.
Et le docteur sort de la chambre.
Et il retrouve la mère dans le couloir.
Alors, docteur? Rien de grave. Je vais aller chercher un petit remède pour la remontée.
Une maladie de jeune fille.
Je reviens.
et il est revenu lui apporter de l'opium qui lui a fait prendre. 2 jours plus tard, elle se relève, elle se sent mieux. Elle se le relève pour prendre le petit déjeuner dans la salle à manger. Sa mère est heureuse. Elle lui dit, n'oublie pas d'aller voir le docteur à la fin de la semaine. Il veut te suivre un peu. Bien entendu, Apolline s'est vite rétablie. Mais elle sent que ça va vite revenir. Et la promesse du docteur la hante. Elle sait qu'elle peut en avoir quand elle veut. Donc, à la fin de la semaine, elle va voir le médecin. Il habite avenue de Saxe, dans un immeuble neuf, au 2e étage. Elle entre dans cet immeuble. Immeuble cossu, bien entendu. Monte à l'étage. Et sonne. C'est une vieille femme, petite, maigre, chignon noir, habillée d'une robe noire. Elle lui demande, « Vous avez rendez-vous ?» Le médecin m'a demandé de passer le voir. « Vous êtes ?» Apolline Beaumandin. « Entrez. »
Apolline entre. Elle ferme la porte. Un couloir clair, cossu, avec une commode Louis XV, tapisserie à fleurs, couleur automne. La femme va ouvrir une porte. Entrez et asseyez-vous. Elle entre, la femme ferme la porte. Et Apolline va s'asseoir sur un bridge.
La pièce est un salon anglais. Apolline n'est pas du tout intimidée. Elle connaît très bien le bon docteur et elle sait ce qu'elle a. Après 5 minutes d'attente, une autre porte s'est ouverte et apparaît le bon docteur en costume gris tout sourire. Entrez, Apolline. Bonjour, docteur. En général, on dit bonjour au docteur, mais celui-ci ne répond pas et ils font comme s'ils n'avaient pas entendu. Entre parenthèses, vous n'êtes pas obligé de les appeler docteur. Ces gens-là font la sourde oreille à vos politesses parce qu'ils se croient au-dessus des simples mortels. Eux savent ou peuvent savoir ce que vous avez et ont le savoir de vous soulager. Quand ils peuvent. Ce sont des dieux de l'Olympe. Mais ils oublient, c'est que dans le grand monde, un médecin est considéré comme un domestique et n'est jamais invité. Donc, Apolline entre dans le bureau du brave docteur.
Il ferme la porte derrière elle. Assieds-toi. Il la fait asseoir. Et lui s'assoit à son bureau.
Alors, mon petit, comment vas-tu?
Mieux, docteur, mais je crois, j'ai l'impression que ça va revenir.
Que veux-tu? Bien sûr que ça va revenir. Ton corps s'est habitué à cette chose, et pour lui, c'est aussi vital que de boire ou de manger.
Il soupire.
Elle lui dit encore, c'est pas bien grave, et de nombreux médecins se servent de cette chose pour soulager les gens. Bien entendu, cela coûte cher. Il la regarde bien. Heureusement que le bon docteur est là et qu'il aime bien sa petite fille. Nous allons faire un petit marché tous les deux. Tu auras une pipe,
chaque fois que tu viendras m'en demander. Je te donne une pipe, mais moi j'en veux aussi. Et oui, chacun sa pipe. Alors tu me fais une pipe et une pipe. Ça te va ? Apolline se sent mal. À l'aise, elle lui demande. Je veux bien, mais comment pourrais-je vous faire une pipe ? Le docteur sourit et lui dit, avec ça. Il met son pouce dans la bouche et fait le va-et-vient en lui faisant un clin d'œil. Tu vois, ton bon docteur sait ce qui est bon. Elle est toute rouge. Et si elle n'avait pas eu besoin d'opium, elle serait partie de suite. Elle a tout de suite compris ce que voulait dire ce geste. Il n'a jamais fait cette chose.
Il se lève tout guilleret et va vers elle.
Et lui dit, tu me fais la pipe d'abord. Attends, ne sois pas si pressé de le faire. Je sais que c'est bon, mais avant, je veux que tu me montres tes seins. De bons petits seins de petite fille. Elle ne bouge pas. Il lui dit, allons, ne sois pas si timide. On se connaît depuis toujours. C'est moi qui t'ai mis au monde. Allez, montre-moi tes jolis petits seins. Elle voit qu'il n'y a rien à faire. Alors, elle se découvre. Et sort deux beaux seins blancs et fermes. Le médecin veut. Et avec ses deux mains, il les palpe. C'est bon, ça. Elle sent ses grosses mains brûlantes sur ses seins. Malgré elle, cela lui fait effet et se met à s'affermir. Le bon docteur sue. Il la voit qui se tortille sur son siège. Tu aimes ça, hein? Attends, moi aussi j'en peux plus. Il se déculotte. Et Apolline voit apparaître un énorme sexe mal foutu. Radio Canyon vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la 26e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
La CVRP Cinéma Vidéo Radio Production vous a présenté une cassette OB.
Canu.
La radio utile.